l'analyse politique de Myriam Schermer.
Bonsoir Myriam, merci d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir. Myriam, alors Israël a reconnu la responsabilité de l'attaque au cours de laquelle 7 volontaires d'une organisation humanitaire dans la bande de Gaza ont été tués. Les 7 volontaires étaient étrangers, ce qui a provoqué la colère de nombreux pays comme les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Union européenne, qui se sont tous exprimés condamnant Israël et exigeant des enquêtes approfondies. Alors comment évaluez-vous la réaction internationale à cet incident et dans quelle mesure pensez-vous que cet incident pourrait affecter les relations d'Israël avec les pays qui ont exprimé leur condamnation et donc affecter la suite de la guerre ?
Écoutez, je pense que, évidemment, c'est un incident tragique. Hein. Personne ne souhaite le décès de travailleurs humanitaires, encore moins alors qu'Israël a tout à fait besoin que l'aide humanitaire soit acheminée correctement à la population palestinienne et que l'aide ne tombe pas dans les mains du Hamas. Donc effectivement, Israël a immédiatement exprimé ses regrets, même avant d'avoir fini son enquête. Et je pense que le gouvernement, a commencé par le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari, a très bien fait. Il a publié une annonce très contrite, etc. Et c'est une bonne chose. Je pense que c'est très important de reconnaître ses torts parce que sur les réseaux sociaux notamment, il y a une campagne qui accuse Israël de tout et n'importe quoi, à tort et à travers, souvent sans aucune preuve. Hein, on se sert de vagues tweets qui disent à peu près tout et n'importe quoi, etc. Donc quand il y a effectivement des décès civils, collatéraux, c'est très important d'en prendre la responsabilité. Pour le coup, je pense que chacun joue son rôle. Les puissances occidentales ont à cœur de montrer qu'elles dénoncent ce genre de choses. Mais soyons réalistes, hein, je pense que tout le monde comprend très bien que les morts accidentelles, ça arrive dans une guerre. Je pense à l'Ukraine, où des journalistes français ont trouvé la mort, par exemple. Enfin, vous voyez, c'est un champ de bataille. C'est une erreur très regrettable. Mais bon, il faut quand même souligner que, vous savez, Charlie, que... parmi les soldats israéliens tombés, certains, un nombre non négligeable, le sont par accident de tirs israéliens. C'est malheureusement très récurrent sur un champ de bataille. Donc, si vous voulez, voilà, je pense que tout le monde comprend très bien qu'il faut être réaliste et que je ne pense pas pour le coup qu'on va vers un incident plus important que ça.
Vous pensez que ça n'aurait pas plus de conséquences?
Le fait de convoquer l'ambassadrice, c'est assez classique. Voilà, elle va leur expliquer le point de vue israélien et chacun est dans son rôle. Et voilà, les ambassadeurs qui sont convoqués, ça arrive quand même assez régulièrement.
Oui, bien sûr, mais on sait aussi qu'Israël est sous les radars en permanence. Quoi. Ça veut dire la moindre erreur, on a l'impression que les pays attendent justement le moindre faux pas d'Israël.
Oui, mais bien sûr.
Donc on aurait pu penser que l'événement prenne plus d'ampleur.
Non, mais si vous voulez, je pense que de toute façon, ceux qui veulent croire qu'Israël bombarde de façon indiscriminée, ils le croient depuis le 8 octobre, d'accord ? Donc même bien avant que l'opération militaire commence. Donc de toute façon, rien ne convaincra ces gens-là. Et parce que c'est des populations bruyantes, parce que certains ont même des positions importantes dans les élites, je pense à la presse, je pense aux institutions universitaires américaines, alors les politiciens de ces divers pays sont obligés de contenter ces gens-là en se montrant circonspects, etc. Alors que je pense que de facto, vous savez, il y a un analyste militaire qui s'appelle John Spencer, qui est enseignant à West Point, hein, donc l'Académie militaire américaine, pas n'importe qui, et qui dit très clairement qu'il pense qu'Israël a établi un standard de taux de victimes collatérales le plus bas au monde. D'accord ? On serait à environ un taux de 1, voire à 1,5 par cible militaire, en sachant que dans le reste du monde, la moyenne, c'est 8 à 9 civils tués pour un combattant. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est que donc, l'ONU admet dans ses propres statistiques qu'on a 80-90% de pertes humaines civiles dans des conflits comme lorsque les puissances occidentales frappent Mossoul en Irak, etc. Et c'est vraiment très intéressant de constater ce double discours. Les politiciens, ce sont des gens avec des incentives qui disent que leur électorat a envie d'entendre. Donc voilà, ils sont obligés de jouer le jeu. Je pense sincèrement pas que dans aucune capitale, dans aucune chancellerie, quelqu'un pense sérieusement qu'Israël bombarde de façon indiscriminée.
C'est important de le préciser que justement, Israël fait très attention à toutes ces victimes collatérales, malheureusement, qui arrivent en temps de guerre. Alors, on passe à un autre sujet, concernant les pourparlers, justement, autour de l'accord de la libération des otages. Alors, il a été rapporté que la délégation israélienne, comprenant les représentants du Mossad, du Shin Bet et de Tzal, sont revenus du Caire. Alors, on a l'impression que cet accord, c'est un peu comme un rêve inaccessible, tant il traîne en longueur. Même après la proposition du compromis américain, le Hamas avait refusé l'accord. On ne sait plus qui blâmer. Alors, pensez-vous que le Hamas soit réellement intéressé par passer cet accord ? Pensez-vous qu'Israël aussi, de son côté, ne fait pas assez d'efforts pour la libération des otages, comme le clament les manifestants, ou alors qu'au contraire, ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'arriver à cet accord, à l'aboutissement d'un accord ?
Je pense que c'est vraiment très difficile à établir. Je ne veux pas m'exprimer en tant qu'experte sécuritaire que je ne suis pas, mais je pense que la différence entre cet accord qui peut-être aura lieu, on croise tous les doigts, la différence avec le premier, c'est que le premier, déjà le Hamas avait très envie de se débarrasser des enfants, des jeunes femmes, des personnes âgées, etc., parce qu'il comprenait très bien que c'était difficilement tolérable pour l'opinion internationale quand même, d'avoir une otage de 4 ans, même si bien sûr il a gardé le bébé, hein, Kir, oui. Mais enfin voilà.
Et Ariel aussi.
Voilà, oui, bien sûr, mais c'était dans son intérêt de toute façon. Et en plus, le Hamas, à ce moment-là, n'était pas convaincu qu'Israël allait reprendre les combats. Rappelez-vous, même les Israéliens eux-mêmes, en Israël aussi, il y avait ces craintes-là qu'on ne puisse pas reprendre les combats. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a repris de plus belle, d'accord, et que, selon les estimations, le Hamas est surpris par l'ampleur des représailles israéliennes depuis le début de cette campagne. Effectivement, elles sont inédites par rapport à toutes les autres opérations offensives qu'il y a eu dans la bande de Gaza depuis que le Hamas est monté au pouvoir. Donc à ce niveau-là, effectivement, le Hamas a beaucoup plus de choses à perdre pour un second tour. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, les conditions sont beaucoup plus difficiles, les négociations sont beaucoup plus délicates, en sachant que le Hamas a abandonné une partie de ses revendications, ce qui signifie quand même une victoire en filigrane pour Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, rappelez-vous, hein, le 7 octobre, c'était notamment justifié de leur côté par l'idée qu'ils allaient faire libérer tous les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Ils ont complètement abandonné cette revendication.
Et Israël aussi a abandonné aussi quelques-unes de ses exigences. Enfin,
justement, toute la question est... d'une part, est-ce qu'Israël accepte de libérer des terroristes avec du sang sur les mains, tout en sachant que le deal Shalit de 2011 a été catastrophique pour la sécurité ultérieure d'Israël, donc c'est une grande crainte en Israël. Et d'autre part, l'arrêt des combats plus ou moins, et surtout, oui ou non, le retrait de la zone nord de la bande de Gaza, qui dans n'importe quel plan futur présenté aujourd'hui par l'appareil sécuritaire israélien, il y aura une présence de Tzal, au moins dans la bande nord, pour faire tampon avec les territoires israéliens et pour pouvoir contrôler les afflux de population. Donc, si vous voulez, on a bien vu d'ailleurs avec cette opération à l'hôpital Shifa, qui a duré plus de 2 semaines maintenant, comment Israël s'est retiré de l'hôpital qui avait été attaqué une première fois en novembre, et que finalement, les terroristes à la fois du Hamas et du djihad islamique sont allègrement retournés. D'accord ? Donc pour Israël, c'est très compliqué de se retirer. Donc toute la question est effectivement, sur quoi Israël peut céder, tout en sachant qu'effectivement, la pression augmente à l'intérieur d'Israël, c'est tout à fait normal. D'une part, symboliquement, on arrive à la fête de Pessah, et je pense que pour beaucoup d'Israéliens, ça va être très compliqué de fêter la fête la plus importante de l'année, et puis surtout la fête de la libération, la sortie de l'esclavage.
Oui, exactement.
Sans les otages, c'est extrêmement symbolique et c'est très, très difficile. Et au-delà de ça, les témoignages qui se multiplient, les ex-otages qui très courageusement disent tout haut ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire qu'on se doutait bien qu'il y avait des agressions sexuelles, mais il y a une différence entre s'en douter et entre l'entendre et ou le lire noir sur blanc, qui est désormais le cas. Et par exemple, aujourd'hui, il y a une séquence très difficile et très émotionnelle à la Knesset où plusieurs ex-otages accompagnées de mères d'otages, ont vraiment témoigné de ce qu'elles avaient vécu. Et je pense que peu de députés présents sont restés avec les yeux secs et dans la caisse, parce que tout le monde comprend très bien qu'il s'agit d'un calvaire. Donc effectivement, on est dans une situation très compliquée.
D'autant plus que ça fait bientôt, enfin dimanche, ça va faire 6 mois quand même. Que
6 mois, oui, oui.
C'est la moitié d'une année, c'est incroyable.
Alors,
quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que Gilad Shalit, qui est donc un ex-otage franco-israélien, pour le coup, même s'il ne parle pas très bien français, mais qui a la nationalité française, connu du monde entier et connu d'Israël certainement, on aurait pu penser qu'il s'exprimerait peut-être, parce que lui, il a passé 5 ans en otage. En captivité.
Oui.
Et ça aurait été intéressant d'avoir son point de vue et son expertise quelque part. Il ne le sait pas, c'est tout à fait compréhensible. Oui. Il a le droit de mener sa vie, de continuer à mener sa vie de façon privée. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des otages qui ont été libérés beaucoup plus longtemps. Mais d'un autre côté, il ne s'agissait pas de femmes. À ma connaissance, c'est la première fois que des femmes sont enlevées à Gaza, notamment des soldats, mais pas que. Des jeunes femmes qui étaient à la fête de Nova, donc avec tout ce que ça représente en termes d'agression sexuelle, et puis bien entendu la quantité, et puis certainement aussi la cruauté et le sadisme du Hamas qui a beaucoup monté, qui a monté d'un cran à l'époque, il y a 10 ans, quand Gilad Shalit est libéré. Certes, il est pâle, mais il est pâle et il est mal nourri quand il sort de son calvaire. Mais il a passé plus ou moins 5 ans à regarder la télé. Enfin voilà, si vous voulez,
il n'était pas dans un tunnel.
Il n'y avait pas cet enjeu de guerre
et de pression.
C'était différent. Donc bon, effectivement, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile. Le Hamas sait très bien que pour la société israélienne, c'est inadmissible et c'est insupportable. Donc je pense qu'il n'y a pas à se priver d'en jouer jusqu'au bout. Ce qui peut être intéressant à souligner, tout de même, c'est que, en l'occurrence, le monde devrait s'indigner davantage. Là aussi, les organisations de femmes, je pense à la première dame des États-Unis, je pense à la première dame de France. C'est-à-dire que, si vous voulez, cette question de est-ce que oui ou non des jeunes femmes sont censées continuer à être violées tous les jours, parce qu'il s'agit de ça, hein, il faut dire les choses comme elles sont, avec peut-être des grossesses non désirées à la clé, enfin. Voilà, c'est indescriptible.
C'est vrai que le silence est troublant. Le silence de la part des organisations féministes.
Voilà, ça devrait pas être un enjeu de guerre. Ça devrait tout simplement être normal qu'on les libère pour un avis. Mais voilà.
Merci beaucoup Myriam. Alors avec les quelques minutes qui nous restent, on va passer sur le sujet de l'enrôlement des ultra-orthodoxes dans le Sahel. Est-ce que vous pouvez commencer juste par nous faire un peu d'ordre, encore une fois, assez rapidement, et nous donner votre avis sur la question en vue d'une prévision de l'ouverture d'un nouveau front nord?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est une collision assez exceptionnelle, comme que en Israël, il peut nous arriver, à la fois d'un calendrier législatif et judiciaire, en fait, où finalement tous les accords et les lois qui avaient été prévus jusqu'à présent pour maintenir la dispense de l'enrôlement des ultra-orthodoxes, eh bien, sont arrivés à terme. D'accord? Il y a péremption, si vous voulez, d'un point de vue législatif. Et puis, bien entendu, avec les besoins de la guerre qui augmentent énormément, avec des réservistes israéliens aujourd'hui qui, après avoir fait parfois 4 mois au front, sont de nouveau rappelés. Et tout le monde se doute que ça ne va pas s'arrêter là et qu'on sait très bien que ça va au moins durer encore 1 an, voire 2. Donc, comme vous dites, avec l'ouverture possible d'un front nord, on comprend très bien que l'effort de guerre a besoin d'être soutenu de façon massive, très différemment de ce qui était envisagé jusqu'au 7 octobre. Ça, c'est le contexte. Ensuite, effectivement, donc, il se peut que la guerre précipite les choses hein, et que finalement, les ultra-orthodoxes soient vraiment acculés avec des sanctions sur les yeshivot, les centres d'études talmudiques, etc. Alors, Netanyahou a promis à ses partenaires de coalition une loi qui serait passée dans 1 mois, donc à la session parlementaire d'été, hein, après la fête de Pessah. Qui obtiendrait l'accord de la conseillère juridique du gouvernement et qui serait voté à majorité. Il y a beaucoup de députés aujourd'hui au Likoud notamment qui sont très mal à l'aise avec cette situation. Donc reste à savoir effectivement s'il pourra obtenir gain de cause, en sachant que Benjamin Netanyahu est quand même réputé pour ses talents politiques. Donc en général, quand il fait une promesse de ce genre, il arrive à la tenir, mais 1 mois en Israël, a fortiori en temps de guerre, c'est beaucoup.
Merci beaucoup Myriam pour tous vos éclaircissements, c'était très très intéressant. On espère vous retrouver très très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Je vous souhaite de passer une bonne soirée.
Avec plaisir, bonsoir.
Au revoir Myriam.